Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Eric Madinakiza avec vous au micro, Lionel Dounamila Gahima sur la mise en onde. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'Amérique et vous, consacré à Harry Belafonte, un artiste de renom qui a marqué la scène musicale internationale, mais également un activiste engagé pour les droits civiques et la justice sociale. Dans cette émission, nous explorons la vie fascinante de cet artiste hors du commun, qui a suivi une trajectoire unique dans l'industrie de la musique en intégrant des influences africaines, caribéennes et en popularisant la musique folk américaine. Nous discutons aussi de son engagement en faveur de la cause des droits civiques aux États-Unis et de son influence sur le mouvement de libération africain. Comment son héritage artistique et politique continue d'inspirer de nombreuses personnes à travers le monde aujourd'hui. Profitez de cette plongée dans la vie et l'œuvre de Harry Belafonte. Ce soir, nous recevons le professeur Mohamed Bodj. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci.
Nous avons également Marlene Sefok, le professeur à Howard University. Bonsoir, Marlene. Marlene, vous m'entendez? Bonsoir.
Oui, je vous entends bien. Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue. Nous aurons également Innocent Mouhozi, directeur général de la Télé-Renaissance au Burundi, qu'on essaie de joindre. Marlene, je vais commencer avec vous. Vous avez rencontré personnellement Harry Belafonte. Pouvez-vous nous partager une anecdote mémorable ou une expérience personnelle que vous avez eue avec lui?
Alors, j'ai rencontré Monsieur Belafonte, Harry Belafonte, il y a de cela quelques années, il y a peut-être à peu près 6 ans, et ça s'est passé à Women Democratic Club, au club des femmes démocrates de Washington, et il était l'invité principal. Et donc, il avait déjà à peu près 90 ans, et c'était quelqu'un d'extrêmement, d'extrêmement aimable, affable. Et ce qui m'avait toujours surprise, c'est que quand on parlait de lui à la maison, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, on disait toujours de mon père qu'il était, qu'il ressemblait exactement à Harry Belafonte. Et quand j'ai rencontré personnellement Harry Belafonte, je me suis rendu compte que c'était vrai, qu'il ressemblait à mon père comme si mon père c'était son jumeau. Et donc quand je l'ai rencontré, je lui ai montré une photo de mon père. Et tout de suite, il s'est dit, ben, c'est son jumeau. Voilà. Et mon père qui est décédé il y a de cela des années, puisqu'il est décédé en 91.
En tant que personne ayant rencontré Harry Belafonte, comment décririez-vous son influence sur la musique et la culture populaire, Marlene?
Alors, sa musique, évidemment, sur la culture populaire, était extrêmement importante. Surtout, il y a de cela peut-être 40, 50 ans, même je dirais 60 ans, et c'était le chanteur par excellence, celui. Et puis il n'était pas seulement, un chanteur, mais c'était aussi quelqu'un de charismatique et qui représentait les Noirs, et surtout l'homme noir avec énormément d'élégance, énormément de charisme, je dirais.
Professeur Mbodj, Harry Belafonte a été un militant pour les droits civiques et la justice sociale tout au long de sa carrière. Pensez-vous que ses convictions politiques ont influencé sa musique et comment?
Tout à fait. Tout d'abord, il faut remarquer que voilà quelqu'un qui a eu une connexion, une amitié très longue avec Sidney Poitier, dont on connaît bien l'itinéraire artistico-politique. Ensuite, dès qu'il a éclos comme, disons, jeune talent musical et aussi sur scène, il a refusé de jouer, de chanter, d'apparaître dans le Sud jusque dans les années 60-61. C'est quelqu'un qui a participé à la campagne électorale de John Fitzgerald Kennedy comme candidat, disons, progressiste et porteur d'espoir pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui a été un ami de Sékou Touré, qui a été un ami de Léopold Sédar Senghor. Donc on voit très bien que son côté artistique et son côté politique et son côté, disons, activiste sont liés. Il n'a pas attendu d'achever une stature artistique incontestable pour entrer dans la politique, pour entrer dans l'activisme. Il a toujours combiné les trois.
Est-ce que vous, c'est quelqu'un que vous avez écouté plus souvent? Quels sont les titres, par exemple, qui vous intéressaient?
Disons que j'ai grandi dans une maison où il y avait ce qu'on appelait à l'époque la phono. Donc, et mon père avait effectivement son fameux disque Talimi Banana. Je crois qu'il a un autre titre, Deyo. Donc, tout le monde connaît ce titre. Et par la suite, effectivement, il a effectivement repris des classiques américains comme aussi des classiques folkloriques des Caraïbes et du Sud. Donc, c'est quelqu'un dont la carrière est fondamentalement liée à une, ce qu'on peut appeler une popularisation de la musique populaire afro-caribéenne, afro-américaine. Et donc, pour lister les titres qu'il a interprétés et qu'on a écoutés, ce serait fastidieux. Disons simplement que nous avons grandi en ayant l'écoute. Donc, comme je dis, à la maison, à la fin des années 50, donc mon père jouait ce genre de musique sans connaître l'homme. Et c'est plus tard, bien entendu, que j'ai mis un nom et une figure sur cette musique que j'ai entendue étant très jeune.
C'est cette musique qui joue maintenant. Lionel Gahiba a trouvé le morceau qu'on est en train de, d'écouter. J'ai l'hommage de Jean-Marie Ngendahayo. Il est au Burundi. Il a écrit ceci. Belafonte était séduisant. Il avait un charme fou à l'écouter parler sans l'avoir jamais entendu chanter. On se demandait comment on pouvait prétendre qu'il était chanteur. Sa voix était éraillée et sourde. Et pourtant, dès qu'il entonnait une chanson, le miracle se produisait. Les sons de sa bouche étaient épurés, envoûtants. Il pouvait donner de la voix comme il était en mesure de susciter des sons d'une douceur infinie. Il dit, je cite, « J'ai découvert Belafonte par mes sœurs qui venant de Kanyinya, c'est au nord du Burundi, une école des religieuses regroupant des jeunes filles de bonne famille rwandaises et burundaises à l'époque. Nous chantaient des chansons du folklore burundais et rwandais. J'adorais surtout celle du Rwanda dont les sentiments étaient plus personnalisés. L'une d'elles parlait d'un amour fou pour son homme et la jeune fille se languissait de son absence. Mes sœurs m'ont expliqué que ma chanson préférée était en fait un texte rwandais collé sur une mélodie jamaïcaine dont l'original est une chanson interprétée par un certain Harry Belafonte. C'était Jamaica Farewell. Ça, c'est une partie de l'hommage de Jean-Marie Ngendahayo. Marlene Sefocle, Belafonte a travaillé avec de nombreux artistes africains, notamment Myriam Makeba et Babatunde Olatunji. Dans quelle mesure ces collaborations ont-ils contribué à façonner sa musique et son message?
contribué à façonner sa musique et son message, puisqu'il s'agissait avant tout de mettre en valeur, pour Belafonte, il s'agissait avant tout de mettre en valeur à travers le calypso, parce qu'il s'agissait autour de la musique calypso qui mettait en valeur, donc avec toutes ses racines, les racines africaines que le calypso comporte. Il s'agissait de mettre en valeur aussi la vie des personnes simples, des personnes, des travailleurs, par exemple. Donc, par exemple, dans ce qu'on appelle le Banana Boat Song, il s'agissait de mettre en valeur le travail des dockers, par exemple, les dockers qui rassemblent les bananes et qui les portent sur leur dos et qui les amènent jusqu'au bateau. C'est ça le sens de la chanson Tali, Tali Mi Banana. C'est-à-dire que la personne est en train de compter toutes les régimes, tous les régimes de bananes qu'il porte jusqu'au bateau. Et quand il parle de Deo, il s'agit de travail qui est fait très, très tôt le matin. Donc, Deo. Donc très très tôt le matin, dès à la pointée du jour, les gens travaillaient déjà et travaillaient très dur. Donc tout cet aspect-là qu'il montrait à travers sa musique, c'est-à-dire la peine, le travail, le labeur, jusqu'à l'épuisement parfois des dockers, des personnes, des travailleurs dans les champs aux Antilles, dans la Caraïbe.
Voilà Belafonte qui fera connaître Myriam Makeba en l'attirant d'une comédie musicale sud-africaine en tournée aux États-Unis. Le duo, ça c'est la version en duo de la chanson tanzanienne Malaika. C'est cette musique qu'on écoute, un chef-d'œuvre musical que l'on peut retrouver dans l'album An Evening with Myriam Makeba and Harry Belafonte. Kibege hakuwaza kibege engekuwa malime engekuwa dada nashindwa na mali sinuwe ningekuwa malaika. Mohamed Mbodje, une belle mélodie. Quelle a été la contribution de Belafonte à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et comment cela a-t-il affecté sa carrière et sa vie?
Il a très tôt effectivement collaboré avec des artistes qui sur le plan international étaient un peu rejetés comme Myriam Makeba et d'autres. Ensuite, il a été une figure de proue dans la campagne de boycott des produits sud-africains, des sud-africains aux Jeux olympiques. Il a été un avocat assez entendu sur cette question. Et donc, effectivement, son apport artistique, d'une part, a été de soutenir ces artistes sud-africains grâce à son carnet d'adresse, à sa stature de star international, mais d'autre part, effectivement, en étant la figure de proue du boycott et de la lutte anti-apartheid, il entrait de plein pied dans la lutte pour l'indépendance et pour l'émancipation de l'homme noir à la fin des années 50 et tout au long des années 60 et 70. Donc c'est quelqu'un qui, finalement, d'une façon miraculeuse, a pu mener toutes ses carrières à la fois. Et effectivement, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des répercussions, certainement qu'il y en a eu sur sa carrière artistique. Mais c'est quelqu'un dont la présence est extraordinaire sur scène. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, comme mon collègue l'a déjà dit. Et donc, quelqu'un qui était incontournable d'une certaine façon, en un moment où on peut dire que l'actualité musicale internationale s'ouvrait aux Caraïbes, s'ouvrait à des musiques non occidentales. Et donc, Harry Belafonte amenait une bonne dose, une bonne bouffée d'air frais, mais en même temps, il exerçait une présence politique et activiste soutenue qui faisait que cela allait de pair. Je crois qu'il n'a jamais fait la différence entre ce qu'on peut appeler la prise de conscience politique ou civique et la prestation artistique. Il a toujours pensé que c'était des choses qui allaient ensemble et qu'il fallait combiner, et il a été capable de les combiner dans sa vie.
Quand le Rwanda fut déchiré, détruit par le génocide des Tutsis en 1994, Belafonte fut une des premières personnalités mondiales à venir exprimer sa compassion et sa fraternité à la nation rwandaise. Il est aussi le promoteur principal de We Are the World, chanté en 1985 par 45 artistes américains, récoltant des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie. Marlene Sefocle, Harry Belafonte est souvent considéré comme l'un des artistes les plus importants du mouvement pour les droits civiques. Son travail a sans doute influencé d'autres artistes et activistes qui ont suivi, qui par exemple.
Alors, d'abord, il faut dire combien Harry Belafonte a toujours soutenu le mouvement des droits civiques. Il l'a soutenu en, par exemple, en payant les cautions, par exemple, pour que ces activistes soient relaxés des prisons. Il a mis sa fortune personnelle, si vous voulez, au service du bail-out, comme on dit en anglais, des prisonniers de conscience aux États-Unis, dans le mouvement des droits civiques, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important. Il a dû aussi faire face, par exemple, pour la marche d'Anselma. Il racontait souvent comment il recevait les menaces du Ku Klux Klan qui voulait porter atteinte à la vie des personnes qui allaient marcher sur ce pont à Selma. Donc, c'était son activisme, c'était pas simplement un activisme de surface, c'était un activisme très profond où sa personne elle-même était en danger très souvent et où il mettait, si vous voulez, de sa propre poche pour libérer certains prisonniers.
Voilà, ça c'est We Are the World que beaucoup d'artistes ont chanté, dont Michael Jackson, There Comes a Time. Voilà, je continue avec l'hommage de Jean-Marie Guindahayo qui parle de son attachement sentimental pour Belafonte. Il dit, je le cite, « Mon attachement sentimental pour cet artiste d'origine jamaïcaine débarqué aux États-Unis comme danseur fut renforcé quand j'ai appris que mon oncle Joseph Birori l'avait rencontré au cours de son stage à Harvard et qu'il l'avait même initié à la danse Inore de notre région. C'est une danse traditionnelle burundaise. Et je fus ému aux larmes quand mon cousin, Aimé Nidendereza, me raconta l'anecdote suivante. En tournée en Europe, lors d'un concert à Bruxelles, entre deux tours de chant, Belafonte s'est adressé au public et lui a dit qu'il venait d'apprendre la mort de son ami Joseph Birori. Et à son hommage, il a esquissé quelques pas de danse Inore qu'il lui avait appris. Mohamed Mbodj, c'est très fort. Il avait un attachement très lointain avec des gens, des amis qu'il avait rencontrés et qu'il n'avait jamais oubliés.
Ah oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a été fidèle à ses amitiés durant toute sa vie et donc qui n'a jamais trahi ses principes et qui a plutôt sacrifié pour que ses amitiés donc continuent. C'est quelqu'un qui, par exemple, a acheté une maison au Sénégal dans les années 60, c'est un fait assez peu connu, où il séjournait. Et lorsque dans les années 60, le mouvement de reconnaissance, ou en tout cas le mouvement de retrouver les racines africaines et de célébrer des endroits comme Gorée, donc la porte de départ de beaucoup d'esclaves, et c'est quelqu'un qui localement, et en particulier en donnant l'information et en aidant des groupes de touristes et de visiteurs américains, donc à prendre conscience qu'il y avait effectivement sur le continent africain des monuments encore de ce génocide qu'a été l'esclavage. Et de sa maison à Dakar, il a aussi accueilli beaucoup de personnes, il a aidé beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup d'anecdotes de dépenses qu'il a effectuées en particulier pour des artistes, pour des visiteurs. Et je pense que si on se mettait à faire cette liste, et l'exemple que vous venez de donner, effectivement, de cet hommage sur une scène bruxelloise d'un ami africain que peut-être personne ne soupçonnait, ça, c'est du Harry Belafonte.
Jamaica Fair qui accompagne notre discussion. Marlene Belafonte a également été un acteur prolifique. Comment pensez-vous que son travail dans le cinéma a contribué à façonner sa carrière et son héritage en tant qu'artiste?
Alors, en tant qu'acteur, il a évidemment beaucoup ouvert la voie à d'autres artistes. Il était l'un des premiers, ce qu'on appelle leading man, l'un des premiers acteurs avec Sidney Poitier, évidemment, qui était les plus en vue. Et il a obtenu des prix pour les, comme par exemple les Oscars, les Emmy, les Grammy, Tony. Il a reçu tout ce qu'il y avait à recevoir comme prix. Et cela a ouvert la voie à d'autres acteurs, noirs américains, et pas seulement noirs américains, à d'autres acteurs hommes noirs en général.
Et Belafonte est le premier acteur africain-américain, 10 ans avant Sidney Poitier, à jouer une histoire d'amour avec une actrice blanche dans Island in the Sun de Robert Rosen, une île au soleil. Marlene, c'est quelqu'un qui a aussi utilisé sa célébrité et sa notoriété pour promouvoir des causes importantes tout au long de sa vie.
Oui, tout au long de sa vie, il a pu promouvoir des causes extrêmement importantes. Mais je veux revenir à ses récentes interviews. Dans une interview de 2017 au New York Times, il exprimait son chagrin de voir que plus de 50 ans après les droits civiques, la lutte pour les droits civiques, qu'il y avait cette espèce de volonté de la part de certains segments politiques américains, surtout du côté républicain, de vouloir complètement renverser les droits civiques qui avaient été acquis dans les années 60. Donc ça le chagrinait énormément. Et dans cette interview que je souhaite à tout un chacun de pouvoir le lire, de 2017 au New York Times, il exprime sa déception de voir comment les Noirs sont souvent la cible, parfois des policiers aussi, de certains politiciens qui veulent complètement nous refaire l'Amérique revenir aux années 1950.
Très rapidement, Mohamed Mbodj, comment l'œuvre et les idées de Harry Belafonte continuent-elles d'inspirer et de façonner notre compréhension de l'histoire, de la musique et de la justice sociale? En une minute.
Son mentor Paul Robeson, qui finalement a combiné aussi et a marqué depuis les années 30, dans les années 40, la scène politico-activiste et musicale américaine. Ce que nous allons retenir, c'est que le succès artistique, devenir une star, n'est pas contraire, ne peut pas être un frein, une barrière à une participation à l'activisme politique, à la recherche de solutions avancées et progressistes à des problèmes auxquels sont confrontés les Africains d'une manière générale. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est quelqu'un qui a su montrer que c'était possible, qu'il suffisait de s'organiser pour en être capable, et que cet certainement il y a des sacrifices à faire, mais en fin de compte, il valait mieux faire quelque chose dont on était très fier et très content d'achever plutôt que simplement d'avoir un succès pécunier.
Merci Mohamed Mbodj, merci. C'est Mathilda qu'on écoute en 1955. Son album Calypso devient le premier dans l'histoire à se vendre à plus d'un million d'exemplaires. Merci pour votre participation, Marlene Sefok, Mohamed Mbodj, Eric Manilakis a été avec vous au micro, Lionel Gunanila Gahima a assuré la mise en onde. Excellente soirée.